La décision finale est venue lorsque je commençais à avoir mal la nuit aussi, pendant que je dormais, ça me réveillait. En fait, le processus inflammatoire était de plus en plus fort et j'avais des lancées la nuit qui me réveillaient.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile et le quotidien 24 heures. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette troisième saison du podcast. Avec le printemps qui démarre, c'est aussi le retour des orteils à l'air. Et ça n'a l'air de rien, mais porter des petites sandales, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Nora a dû s'en passer pendant près de 30 ans. En cause, un hallux valgus sévère, une déviation du gros orteil vers l'extérieur, plus connu sous l'appellation populaire d'oignon. Comme plus de 20% des Suisses, Nora a vu son pied se déformer de plus en plus avec les années, rendant le chaussage difficile et la vie quotidienne de plus en plus douloureuse.
Je souffre d'un hallux valgus depuis plus de 30 ans. C'est apparu vers 18 ans. Et depuis, je savais qu'à un moment donné, ça allait se détériorer et que je vais avoir de plus en plus de problèmes à marcher chaque jour. Au début, je pouvais juste pas porter des chaussures avec des talons, donc en fait, j'en ai jamais porté de ma vie. Ensuite, les chaussures, j'ai dû les acheter de plus en plus larges, de plus en plus confortables, avec un cuir toujours plus souple. Et puis, ça fait quand même 2-3 ans où j'avais une bosse est apparue, une bosse douloureuse, comme si on avait une ampoule. Il y avait d'ailleurs souvent une ampoule qui s'est formée par-dessus, que je devais couvrir avec des pansements ou type Compeed. Et je savais que là, c'était assez proche de devoir prendre une décision.
Le docteur Patrick Vienne, spécialiste en chirurgie orthopédique à la clinique Boisserre.
L'hallux valgus, donc c'est un terme latin. Hallux, c'est la dénomination du gros orteil, en fait, en français. Et puis le valgus, ça détermine la position, en fait, du gros orteil. On parle d'une déviation vers l'extérieur. Donc, c'est une déformation qui est acquise de façon génétique à la base. Donc, on a à peu près, selon les études, 7 à 10% de la population qui vont présenter cette déformation au cours de leur vie. Donc elle se fait de façon très progressive, des fois ça peut commencer déjà dans l'adolescence, où on a tout d'un coup une déviation du gros orteil vers l'extérieur du pied, donc vers les petits orteils qui progressent et qui va petit à petit donner des symptômes, parce que ça va occasionner des points de pression à certains endroits du pied. Il y a des gens qui font des formes plutôt modérées ou je dirais bénignes et qui vont pas être gênés dans leur vie et d'autres qui font des formes assez sévères. Donc il y a vraiment un facteur génétique, ça vient de la morphologie de l'articulation. C'est l'orientation de la surface articulaire en fait du premier métatarse qui est à la base déjà légèrement inclinée vers l'extérieur. Et ça c'est vraiment le facteur génétique et les symptômes étonnamment, sont beaucoup plus souvent présents chez les femmes. Donc dans nos patients opérés, je dirais, pour cette pathologie, on a plus de 80% de femmes. Il y a aussi une fausse croyance, c'est pas le choix des chaussures qui va provoquer la déformation. Donc il y a vraiment des femmes qui ont mis des chaussures à talons très fines et pointues toute leur vie, mais qui n'ont jamais développé d'hallux valgus. Et on trouve cette déformation aussi dans d'autres civilisations, dans d'autres ethnies, je dirais, chez des gens qui marchent à pieds nus, par exemple, ou bien qui mettent que des sandales. Donc, c'est pas vraiment la chaussure qui va provoquer la déformation. Par contre, si on a une déformation, suivant le type de chaussure que vous avez, elle va devenir plus rapidement symptomatique.
Dans environ 50% des cas, l'hallux valgus est bilatéral.
Les deux pieds étaient concernés exactement de la même manière. Et puis la décision finale est venue lorsque je commençais à avoir mal la nuit aussi, pendant que je dormais, ça me réveillait. En fait, le processus inflammatoire était de plus en plus fort et j'avais des lancers la nuit qui me réveillaient. J'avais aussi mal la journée, mais là j'étais un peu habituée. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas normal qu'on se fasse réveiller la nuit aussi. Donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a dit de faire des recherches chez qui je pourrais me faire opérer.
Les symptômes de l'hallux valgus vont généralement en s'aggravant puisque la maladie est presque toujours évolutive.
Alors ça commence en général par une gêne dans la chaussure. Donc vous allez avoir une douleur, une pression sur ce qu'on appelle la tête du premier métatarsien, donc à la base du gros orteil, du côté interne. Et il va se développer une sorte de proéminence qu'on va appeler l'oignon en fait, communément. Et la pression sur cet os en fait et sur la capsule articulaire qui entoure l'os va commencer à devenir douloureuse. D'abord plutôt à l'effort ou lors du port de certaines chaussures mal adaptées. Et puis plus la déformation augmente, plus l'inflammation de cette capsule articulaire va durer et ça va occasionner également des douleurs au repos. Ça peut même être des douleurs la nuit. Si la capsule articulaire est vraiment très irritée, avec une rougeur, une tuméfaction même visible sur le pied, on va commencer à être dérangé la nuit, on va mal supporter le contact même du drap du lit sur le bord interne du pied. Donc il y a pas mal de gens qui commencent à être dérangés la nuit également. Pour ralentir la progression, on peut dans un premier temps, quand les symptômes sont encore relativement bénins, mettre en place des petites orthèses en fait qu'on va placer entre le premier et le deuxième orteil, une sorte d'espaceur on appelle ça, qui va permettre de redresser légèrement le premier orteil et de diminuer la tension sur la capsule articulaire. Donc ça peut freiner un petit peu la progression, mais si encore une fois les facteurs morphologiques de l'articulation sont là, inéluctablement ça va quand même progresser, mais de façon un petit peu moins rapide. Et puis l'autre façon de diminuer les symptômes, c'est d'adapter la chaussure. Donc tant que vous arrivez à adapter votre chaussure et à faire vos activités sans être trop gêné, on peut continuer à observer en fait. Mais s'il y a tout d'un coup des épisodes douloureux qui devaient se manifester de plus en plus fréquemment, où vous devez renoncer à certaines activités par exemple, où il faut commencer à prendre des anti-inflammatoires pour essayer de calmer la douleur, là je pense que c'est bien de consulter. Déjà de faire un premier bilan, de voir ce qu'on peut faire sur le plan conservateur, donc adaptation des chaussures ou autre, ou si il y a lieu de réaliser une intervention.
Pour Nora, il est déjà trop tard pour prévenir, la douleur est déjà trop handicapante.
Le spécialiste, il m'a examiné le pied, il m'a posé des questions, il m'a demandé si j'avais des douleurs. Quand je lui ai dit que j'en souffrais, que j'avais de la peine à courir parce que je fais de la course à pied, il a dit que c'est effectivement une indication pour une opération. J'ai pu décider moi-même à quelle époque que j'aimerais me faire opérer. Je trouve que c'est important de choisir une date où il ne fait pas encore trop frais parce qu'on va devoir porter des chaussures spéciales par la suite, ça je le savais. Donc, j'ai choisi début septembre. Je ne voulais pas non plus condamner mes vacances d'été à cause de ça. Je suis allée à l'étranger, donc j'ai tranquillement choisi début du mois de septembre en me disant que par la suite, avec la convalescence, j'allais terminer avant l'hiver. Il y a des examens préopératoires à faire par son médecin traitant, prise de sang, rien de très grave. Il y a ensuite une consultation avec un médecin anesthésiste de l'hôpital qui explique bien les risques, comment ça va se passer l'opération, donc il décrit tout dans le détail. Et ensuite, le jour J, on arrive à l'hôpital tôt le matin à jeun, ça c'est important, et puis on attend tranquillement qu'on soit descendu dans la salle d'opération.
Pour se faire opérer, il faut répondre à quelques critères et bien évaluer les risques.
Il faut avoir une bonne circulation, une bonne vascularisation artérielle déjà, parce que dans le pied, on est souvent soumis à des troubles de cicatrisation. comme on est dans le dernier vaisseau, donc si la vascularisation est un petit peu déficiente, ça peut augmenter les risques de troubles de cicatrisation. Donc on va faire attention à ça. Il faut que la qualité osseuse soit également suffisamment bonne. Mais ça, en général, tant que les patients sont mobiles et chargent leurs pieds, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Il faut faire attention chez les patients diabétiques, par exemple, chez les patients fumeurs, où là, les risques de complications sont nettement plus élevés et 16 fois plus élevés que chez les patients non fumeurs. On sait que chaque fois que vous fumez une cigarette, ça va vous fermer les vaisseaux, en fait. Et comme on est dans une extrémité avec le pied, il n'y a plus qu'un seul vaisseau qui va irriguer la zone opérée. Et ça peut occasionner des troubles de guérison de la cicatrice et de l'os aussi. Après, on a des complications osseuses qui peuvent survenir aussi, que l'ostéotomie, donc la coupe, ne guérisse pas correctement. Ça dépend là aussi de la qualité de l'os. Mais dans la plupart des cas, si ces facteurs sont respectés, on peut se lancer dans une opération. On a quand même des techniques opératoires maintenant qui ont beaucoup évolué au cours des 10 à 20 dernières années et qui permettent justement de réaliser des corrections au niveau du premier métatarse, qui permet aux patients de marcher en charge totale dès le lendemain de l'opération, ce qui fait qu'on peut opérer les deux pieds en même temps. Après, si la déformation est moins importante d'un côté, mais que le patient a quand même les critères radiologiques, en tout cas pour développer un hallux valgus qui va probablement se péjorer dans le temps, là, souvent, on fait l'opération sur le deuxième pied, plutôt un peu à but préventif aussi. L'anesthésie, ça, on peut choisir, donc c'est pas forcément obligatoire d'être sur l'anesthésie générale. Il nous faut une anesthésie, je dirais, soit péridurale ou rachidienne, comme on appelle, donc depuis le dos en bas, parce qu'on travaille avec un garrot pneumatique à la cuisse pour éviter que ça saigne pendant l'intervention. Et quand on gonfle le garrot, ça peut être douloureux. Donc il faut l'anesthésie au-dessus du garrot. Mais là, c'est le patient qui choisit. Il aura un entretien avec l'anesthésiste quelques temps avant l'intervention et va pouvoir décider du type d'anesthésie. Et on a aussi fait beaucoup de progrès dans les douleurs post-opératoires, parce que c'était une intervention qui était réputée comme assez douloureuse, dans la première nuit surtout. Et là, on peut mettre en place une anesthésie du nerf principal du pied, au niveau du pli du genou, ce qu'on appelle un bloc poplité, qui va vous enlever toute douleur pendant les 24 premières heures qui suivent l'intervention.
Et cette anesthésie du nerf sciatique, Nora n'y était pas tout à fait préparée.
La seule chose que j'ai pas bien écoutée quand le docteur, le médecin anesthésiste m'a expliqué, il m'a dit qu'il allait devoir endormir le nerf sciatique. Et je me suis dit, ouais, pas de problème, parce que j'ai pensé que c'était après l'anesthésie générale. Je lui ai même dit, mais vous faites ce que vous voulez une fois que je dors. Ce que je n'ai pas compris, c'est que quand je suis arrivée en bas dans le bloc opératoire, il a dit, bon, alors je vais maintenant vous donner une piqûre et on va chercher le nerf sciatique. J'ai dit, mais attendez, on va d'abord faire l'anesthésie générale. Il dit, non, malheureusement, je ne peux pas, parce qu'il faut que vous soyez réveillée, parce que c'est difficile de trouver le nerf sciatique, il est bien caché, donc je vais devoir chercher avec des aiguilles, plus avec un appareil. Et pour être sûr que je l'ai trouvé, le seul moyen de savoir, c'est si votre pied commence à faire tam-tam-tam-tam-tam-tam comme ça, contre le brancard. J'ai dit, mais ça va faire mal. Et il m'a dit, bah, écoutez, on va faire au mieux. Donc j'ai effectivement senti une piqûre, je dirais, comme une petite brûlure, voilà. C'est quand même plus fort qu'une prise de sang, ça fait quand même un tout petit peu mal. Je lui ai dit, écoutez, ça fait un peu mal, donc il m'a donné un peu de calmant, parce qu'on a déjà les bras nuls ou canuls, je ne sais pas ce qu'on a dans la main, mais voilà. Et en fait, c'est une réaction que le corps fait, une réaction spontanée que le corps fait quand on touche le nerf sciatique. Donc on a trouvé, c'était tout bon. Et c'est la seule chose finalement désagréable que j'ai eue de toute l'opération.
Nous, on utilise une technique par voie mini-invasive, comme on va le dire, donc c'est une voie ouverte quand même. On va faire une petite incision sur le bord interne du pied, là où se trouve l'oignon. Ceci va nous permettre de mettre en évidence l'os, donc, et on va effectuer une correction dans l'os, donc une coupe dans l'os. C'est un L inversé, c'est pour ça qu'on appelle cette technique REVEL, reversed L de l'anglais, qui va nous permettre de corriger la position du premier métatarse et de le réaligner de façon anatomique. Donc le but de l'intervention, c'est vraiment de restaurer une anatomie normale dans l'avant-pied. L'os va être fixé par deux petites vis en titane qui vont pouvoir rester à l'intérieur. Donc on a des vis maintenant qui sont complètement enfouies dans l'os. On n'a pas besoin d'aller retirer ce matériel normalement par la suite. Donc c'est vraiment une opération qui permet de restaurer l'anatomie, ce qui garantit aussi, en règle générale, une situation durable et stable dans le temps. Donc on a avec ces nouvelles techniques un taux de récidive qui est nettement plus bas que ce qu'on avait encore il y a une dizaine d'années.
Pour Nora, l'intervention se déroule, pour ainsi dire, en un claquement de doigts.
Au bloc opératoire, on nous met un masque. On nous dit de compter de 10 à l'envers. Donc, on fait 10, 9, 8. Et tout d'un coup, on est réveillé. Puis, j'ai dit « Coucou, je suis réveillée !» Et puis, j'ai dit « Je peux me lever ?» Puis, après, ils m'ont dit « Non, non, madame, restez tranquille. On va vous venir regarder si tout se passe bien. » En gros, je me sentais très bien. J'avais mal nulle part. J'ai vu que j'avais un bandage sur les deux pieds. Mais rien d'autre. C'était un très, très bon moment. Et puis, à partir de là, franchement, j'ai plus jamais eu mal. Tout s'est très, très bien passé. Tout était exactement comme le médecin chirurgien qui m'a opéré, qui m'a expliqué. Donc, la douleur a été maîtrisée vraiment pendant tout le processus, et y compris après. Donc, on part avec une prescription de médicaments qu'on peut prendre en fonction de la douleur qu'on ressent. On peut doser soi-même. Donc, non, honnêtement, je n'ai jamais souffert.
Une fois que l'anesthésie s'est levée, donc que le bloc est levé et que le patient a à nouveau le contrôle du pied, il va pouvoir se lever en charge totale dans une chaussure adaptée. C'est une chaussure à semelle rigide qui permet de protéger l'avant-pied, mais on peut se mettre en marche dès le lendemain avec ou sans l'aide de cannes anglaises en fonction de l'état de santé du patient et de sa capacité à se déplacer. Souvent, on propose de prendre une paire de cannes les 2 à 3 premiers jours, mais pas plus longtemps que ça.
À partir du moment où on se fait opérer, pendant les 6 prochaines semaines, on est obligé de porter chaque fois qu'on se lève une sandale spéciale orthopédique qui met le poids du corps sur le talon. Ça veut dire qu'à partir de là, pendant 6 semaines, on va marcher sur le talon. Ce n'est pas aussi compliqué que ça a l'air, parce que la chaussure nous y aide beaucoup. Néanmoins, c'est pas si évident que ça de s'asseoir dans une voiture ou de se lever. Mais une fois qu'on est debout, on marche, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai aussi demandé 2 cannes à l'hôpital parce qu'ils nous en ont donné spontanément. Donc, chaque fois que j'en avais besoin, je les ai utilisées, mais ce n'est pas nécessaire pour marcher. Donc, on peut marcher sans problème, sans les cannes. C'est plutôt un appui pour qu'on ne tombe pas si on n'est pas 100% sûr. Je l'ai utilisé pour mes promenades au début. Parce que déjà 2 jours après, je suis allée me promener à Puy. Donc là, j'ai quand même pris les cannes. Ça permet aussi de se reposer tout en étant debout entre 2 pas de pied. Quoi. La seule règle, c'est que chaque fois qu'on se lève, y compris la nuit et y compris lorsqu'on va faire pipi, c'est qu'on doit toujours mettre ses sandales. Ce n'est pas évident à 3 heures du matin d'ajuster ses sandales sur les pieds. À moitié endormi, mais il faut s'habituer. Donc, à aucun moment, on doit mettre le poids du corps sur le pied qui a été opéré. Toujours marcher sur les talons. Ensuite, par la suite, j'ai un peu triché, parce que je me suis rendu compte que sans devoir forcément mettre la sandale, on peut aussi trottiner sur ses talons. Donc, c'est ce que j'ai fait ensuite, en tout cas la nuit, quand je me levais.
Alors, il y a plusieurs phases après l'intervention. Donc, il y a une phase de guérison. C'est en principe les 2 premières semaines où il faut plutôt rester à la maison et ne pas se déplacer trop longtemps à la fois. Donc là, on préconise de se déplacer plusieurs fois par jour sur des petites durées, 10 à 15 minutes, tout en faisant des pauses entre deux, surélever les pieds, mettre de la glace dessus. Ça, c'est une phase où il faut éviter que le pied ne gonfle trop, en fait. Dès la 3e semaine, en général, toujours muni de ses chaussures spéciales, on va pouvoir se déplacer un petit peu plus, jusqu'à 6 semaines après l'opération. C'est la phase de guérison, en fait. Dès la 6e semaine, on va réaliser un contrôle radiologique. Et si la correction est bien consolidée, on va pouvoir se remettre à marcher dans des chaussures normales et à augmenter progressivement son périmètre de marche, à reprendre ses activités, je dirais, au quotidien.
2 mois et demi après, déjà, j'ai recommencé la course à pied. Tout en disant que la course à pied se fait dans des chaussures très souples, des chaussures de sport, donc celle-là, il n'y avait pas de problème. Par contre, je ne pouvais quand même pas mettre toutes mes chaussures de rue auparavant, notamment les chaussures qui avaient une croûte qui était dure. Donc, il fallait quand même utiliser des chaussures souples. Et puis, au bout de 6 mois, c'est parfait. On peut mettre ce qu'on veut, talons, sandales, n'importe quoi. Mais j'avoue que je suis restée aux chaussures confortables. Je pense que je me suis trop habituée, mais c'est plus nécessaire que ça soit des chaussures larges. Voilà, je peux mettre des chaussures toutes fines, des ballerines par exemple. J'ai toujours aimé les ballerines. Je pouvais les porter au début, mais plus depuis environ 5 ou 10 ans. Donc ça, je suis contente, je peux reporter des ballerines aussi.
Reporter des ballerines et pour beaucoup, trouver ses pieds jolis à nouveau. Mais le docteur Vienne le rappelle, il ne s'agit pas d'une intervention esthétique.
On essaye quand même de ne pas se lancer dans la chirurgie uniquement pour des raisons esthétiques. La douleur doit quand même être au premier plan. La difficulté de chaussage aussi, ça, il ne faut pas le nier non plus. Mais c'est vrai que ça change vraiment nettement la morphologie du pied et ça améliore l'esthétique de l'avant-pied après la correction.
Mes pieds sont droites. Comme c'est marqué dans les livres, quand j'ai regardé à quoi ça ressemble une opération dans l'hallux valgus, elles sont entièrement droites, il n'y a plus aucune déformation, il n'y a plus de bosse sur le premier métatarse. C'est parfait, c'est très beau. Il n'y avait pas de complexe, j'avais juste très mal. Ça fait mal et tout le temps mettre des pansements, surtout en été quand il fait déjà chaud, c'était dur. Et puis je ne pouvais pas porter des sandales. Ça, j'aurais bien aimé en été de mettre des jolies sandales, mais comme les sandales ne sont pas suffisamment rembourrées au niveau de cette bosse, j'avais tellement mal que même en été, en fait, je portais des chaussures de sport et je trouvais que c'était un peu dommage.
Alors pour Nora, pas de doute, quand la douleur est là, il ne faut pas hésiter à se faire opérer.
Il ne faut pas avoir peur. L'hôpital maîtrise très très bien la douleur, aussi bien pendant l'opération où on ne sent rien du tout, à l'hôpital non plus, qu'après. Ils m'ont aussi dit que si j'avais mal, je pouvais toujours leur téléphoner, qu'on pouvait trouver des solutions. Mais c'est absolument pas nécessaire, je leur ai jamais téléphoné. J'ai pas eu mal, tout simplement.
Et il n'y a pas d'âge pour se débarrasser de ces oignons.
On a ce qu'on appelle un hallux valgus juvénile, qui peut déjà se manifester de façon assez marquée dans l'adolescence. Et c'est pas rare de devoir se lancer dans la chirurgie chez des patients ou des patientes entre 20 et 30 ans déjà. Mais ça reste quand même une minorité. La plupart des gens, je pense, qui sont, je dirais, éligibles pour une chirurgie, c'est peut-être à partir de 40, 40, 50 ans, comme ça. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. La patiente la plus âgée que j'ai opérée, quand j'étais encore à Lucerne, elle avait 102 ans. Donc on l'a opérée, elle n'était plus capable de mettre des chaussures. Elle était dans un home, mais on ne pouvait même plus la chausser, tellement la déformation était importante. Et elle a bien guéri aussi, elle a pu remettre des chaussures, elle était toute contente.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur l'hallux valgus dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.